L'invité des matins de France Culture, c'est Claude Lanzmann pour la diffusion ce soir du rapport Karski. L'entretien de Claude Lanzmann avec Yann Karski, la partie qui n'est pas montée dans Shoah. Yann Karski, rappelons-le, résistant polonais, catholique, qui était le courrier du gouvernement polonais en exil à Londres, qui était chargé d'avertir le monde de la tragédie qui se déroulait en Pologne, et notamment vis-à-vis des Juifs. Il a rencontré Roosevelt le 28 juillet 1943, ainsi que le juge Frankfurter, juge de la Cour suprême. Il a écrit, son rapport a été publié, témoigné dans le film de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, au fond, peut-on redire pourquoi il n'y avait pas cette deuxième partie que l'on voit ce soir dans le montage de Shoah, qui effectivement est déjà, après tout, très long?
Pour deux raisons au moins. D'abord, des raisons de longueur, en effet. Shoah est un film qui dure 9h30. Ça n'est pas une série télévisée, c'est une œuvre. Et 9h30, c'était la limite absolue. Sur 9h30, Karski apparaît à l'image, ou par la parole, ou par la parole et à l'image, pendant 40 minutes. 40 minutes sur 9h30, ça fait un 14e. Ce qui veut dire que c'est une figure majeure de mon film. Et c'est peut-être lui qui est là le plus longtemps. Et il incarne à la fois toute la noblesse de la Pologne et la compassion envers les Juifs. Mais il y a une autre raison plus fondamentale, c'est l'architecture de mon film qui commandait la construction et le maintien de la tension dramatique du début à la fin. Et il m'est apparu, puisqu'on sait que les Juifs n'ont pas été sauvés, il m'est apparu plus fort de laisser Karski dire c'est son dernier mot dans Shoah, « But I reported what I saw », mais j'ai fait mon rapport sur ce que j'avais vu, plutôt que de l'entendre raconter, j'ai dit ceci à un tel, et voilà comment il a réagi. C'était pas ça. Pour moi, c'était largement anecdotique et secondaire. Et la façon d'ailleurs dont il apparaît dans la deuxième partie, plutôt dans la deuxième journée, parce que j'ai tourné avec lui pendant deux jours. Le premier jour, il est entièrement mobilisé pour nous faire revivre l'horreur de ce qu'a été le ghetto de Varsovie. Il est bouleversant et il s'épuise d'ailleurs à cela. Et le deuxième jour, pour lui, c'était presque une récréation. Et il n'est plus exactement le même homme. Il devient un peu théâtral, etc. Les deux Karski mis ensemble, il y a une sorte de contradiction. Tandis que l'écouter aujourd'hui, 32 ans plus tard, le Karski du deuxième jour prend une toute autre dimension d'ordre...
Ça prend tout davantage de sens que si vous l'aviez monté à l'époque, dans la période actuelle.
D'ordre métaphysique, oui. Je veux dire, la vraie question qui est posée, que je lui pose, et à laquelle il se prête et à laquelle il tente de répondre de la façon la plus honnête, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que savoir? Qu'est-ce que c'est que, quand on est à Washington ou dans un confortable bureau de Washington ou de New York, qu'est-ce que ça veut dire que le récit qu'il fait? Et lui-même est pris dans des procédures autres. L'ambassadeur de Pologne, enfin du gouvernement polonais en exil à Londres, lui dit soyez rapide, soyez concis, répondez.
Il le briefe tout le temps,
quand on vous parlez trop. Il le briefe tout le temps, on ne parle pas au président des États-Unis. Et quand il voit Roosevelt, il se dit qu'il a affaire à, non pas au président des États-Unis, mais à un leader du monde.
Au leader du monde.
Au leader du monde. Et d'ailleurs, il ne s'en est jamais remis. Là. Il en parlait tout le temps.
Avec le mystère d'un geste de Roosevelt, d'un geste de la main dont il ne sait toujours pas au fond ce que veut dire ce geste.
Non, mais,
un geste impérial.
Mais la vérité, c'est que Roosevelt savait déjà. Tout le monde savait.
Frankfurter aussi, le juge Frankfurter aussi.
Oui. Écoutez, moi, j'ai lu un numéro d'une petite revue un peu confidentielle aux États-Unis qui s'appelait Jewish Frontier.
Voilà. Qui, en octobre 1942, avait décrit déjà
tout le master plan de l'extermination
plans,
par les camions à gaz à Redno.
Dès 42.
Oui. Était là, oui, bien sûr.
Mais la revue était confidentielle.
Mais qu'est-ce que c'est que ça va Ça me fait toujours penser à une histoire que. Quelque chose que je disais à Jean-François Revel, que j'aimais beaucoup. Et Revel avait écrit un livre qui s'appelait « La connaissance inutile ». Alors, je ne comprenais pas qu'on puisse demeurer communiste, malgré tout ce qu'on savait, des horreurs, etc. Et je lui disais « Mon vieux, écoute-moi, enfin, si ta femme te trompe et si tu l'aimes, et si on t'administre toutes les preuves de la tromperie, si on te les met sous les yeux, tu vas les fermer les yeux. Bon, tu voudras pas le savoir. Ça arrive tout le temps. Alors, l'idée que la connaissance débouche immédiatement sur de l'action, c'est quand même un peu plus compliqué.
Claude Lanzmann, je vous propose d'écouter Alain-Gérard Slama. C'est l'heure un peu dépassée de sa chronique. Bonjour Alain-Gérard Slama.
Bonjour
Pierre-Marc.
Et aujourd'hui nous continuons. Écoutez bien, oui. Je vous demanderai évidemment de réagir à votre commentaire. Claude Lanzmann, Alain-Gérard Slama, l'histoire n'est pas, dites-vous, au service de la mémoire.
Oui, je pense que Claude Lanzmann sera d'accord avec moi sur ce point. Il n'est pas inutile, je crois, à propos des débats qui entourent l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Karski, de s'interroger sur le statut du métier d'historien aujourd'hui. Et nous sommes entrés dans une ère de la communication généralisée. Et nous traversons aussi, avec la mondialisation, une transformation profonde des rapports entre l'État et le citoyen. D'un côté, tout le monde communique, Marc, et peut exprimer son opinion. Du coup, le statut d'ailleurs de l'intellectuel a perdu son prestige. Il a été supplanté par l'expert en sciences sociales, ou l'historien, qui joue un rôle croissant d'arbitre dans nos débats de société. Et c'est ainsi qu'on a vu progressivement l'historien devenir le grand consultant de toutes les querelles de mémoire, et que sa présence a été requise dans les prétoires, tantôt comme témoin d'une des parties, tantôt comme expert appelé par le juge. Jamais, je pense, depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis la constitution de l'idée nationale, le métier d'historien n'a été davantage sollicité, ni plus en vue. Mais cette visibilité, ce rôle de plus en plus éminent, est une contrepartie. Et cette contrepartie est liée au retour du vieux refoulé communautaire, ethnique ou religieux, qui prospère à la faveur de la mondialisation et de la crise de crédit qui affecte l'État. Nous avons vu depuis... Vous suivez bien mon raisonnement, Marc ?
Absolument.
Bon, je vous vais prendre des notes d'ailleurs. Nous avons vu depuis quelques années les intérêts de mémoire liés aux revendications ethniques, religieuses, communautaires, faire pression sur les historiens et leur demander de justifier la cause de chacun en réécrivant le passé. Or, il est exact que le métier d'historien consiste bel et bien à réinterroger constamment le passé à la lumière des questions que se pose le présent. Mais cela en évitant évidemment de basculer dans l'anachronisme. Pour éclairer ce point, je prendrai un exemple qui est donné par Raymond Aron dans sa thèse sur la philosophie de l'histoire, qui est contemporaine du Front populaire, comme on sait. Et Aron note que la réalité historique, parce qu'elle est humaine, est équivoque et inépuisable. Équivoque et inépuisable. J'admire cette définition. Et il note, en son temps, qu'on jugera différemment le Front populaire selon qu'il mènera à un régime social nouveau ou à la réaction. Et c'est pourquoi, conclut-il, il n'y a pas d'histoire du présent. Chose que je m'évertue à dire à mes collègues, mais ils ont beaucoup de mal à le croire. On en demande aujourd'hui de plus en plus à l'historien. On lui demande à la fois d'éclairer les enjeux de mémoire et de se faire l'historien du présent. Et le problème qui se pose à lui, c'est de résister à la double tentation de répondre à ces demandes en mettant l'histoire au service de la mémoire. Après, si j'applique maintenant l'affaire Karski, la thèse aronienne, d'une histoire équivoque et inépuisable. Considérée du point de vue de ses conséquences, l'absence de suite immédiate donnée par Roosevelt au rapport, aux rencontres de délégués juifs, puis à Karski lui-même, et puis il y avait eu Gerstein aussi, entre octobre 42 et juillet 43, cette absence de suite oblige l'historien tout de même à interroger le passé autrement. Nous savons que Roosevelt savait, dans son livre sur les années d'extermination, publié au Seuil en 2008, Saül Friedlander cite une déclaration parfaitement claire de Roosevelt adressée à une délégation de dirigeants juifs le 8 décembre 42. On est toujours dans nos zones là. Roosevelt y affirme, je cite, que le gouvernement des États-Unis est au courant de la plupart des faits sur lesquels vous attirez aujourd'hui mon attention. Alors, il va falloir en effet interroger autrement la conduite de Roosevelt, c'est-à-dire se poser la question que pose Claude Lanzmann, de savoir jusqu'à quel degré allait cette connaissance et ce savoir. Et Raymond Aron lui-même, dans ses mémoires, témoigne qu'on savait, mais que devant l'indicible, on ne pouvait y croire. Une autre question est de savoir s'il aurait été possible de donner priorité à la libération des camps d'extermination au risque de perdre la guerre. Mais il faut poser la question, on ne peut pas s'y dérober. Une question encore est de savoir dans quelle mesure la prise en compte de la course de vitesse entre les forces américaines et russes a contribué à orienter la décision du président américain. Alors moi, je n'aurais évidemment pas la prétention, surtout en présence de Claude Lanzmann, de répondre ici à ces questions. Mais on voit bien que ces questions évoluent avec ce que nous découvrons des conséquences du passé que nous étudions. Et cela amène l'historien à privilégier tel document ou tel autre. Mais le principal souci de l'historien, selon moi, doit être de n'accepter d'être l'otage de personne.
Attendez, Claude Lanzmann, dire un mot.
Ah, mais oui. au contraire, vous êtes invité à dire un mot.
C'est même mon but.
Claude Lanzmann.
Il ne faut quand même pas oublier que le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, était largement entre les mains d'antisémites, qui s'appelaient Breckinridge, Long, Robert Borden Rims, champion de golf et de la confection du Martini Dry, que j'ai bien connu. Et ces types-là faisaient de la rétention d'informations, ne communiquaient pas à Roosevelt ce qu'il savait, et les choses ont véritablement changé quand le secrétaire d'État au Trésor, Henry Morgenthau, qui était juif, lui-même, a mis sous les yeux de Roosevelt les preuves de la forfaiture des gens du département d'État. Il a réagi immédiatement, Roosevelt, il les a virés, tous. Bon. Et là, il a créé le War Refugee Board. Et c'est le Trésor américain qui a pris en main les choses. Bon, alors toute cette histoire du sauvetage est très compliquée, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est très difficile, car ce qu'il le dit lui-même, très peu pouvait être fait. À partir du moment où Hitler avait déclenché cette guerre contre les Juifs, et tout ça se passait secrètement, n'oubliez pas ça. Enfin.
Claude Lanzmann, est-ce que vous avez ensuite, vous, rediscuté...
Et le mot de Aron, le mot de Aron que je cite...
Je l'ai su,
à la fin
mais
de,
je ne l'ai pas cru.
À la fin de mon avant-propos dans... Ouais.
Dans le film, le rapport Karski.
On lui demande si, alors qu'il se trouvait à Londres, il avait su, et il répond, j'ai su, mais je ne l'ai pas cru. Et puisque je ne l'ai pas cru, je ne l'ai pas su. C'est tout. Qu'est-ce que... À la porte, un Polonais m'a dit l'autre jour, j'étais à l'ambassade de Pologne, me parlant du juge Frankfurter, qui dit,
à Karski, proche de Roosevelt,
I don't say that you are a liar, but I don't believe you. Je ne dis pas que vous êtes un menteur, mais je ne vous crois pas. Alors ce Polonais me dit, voilà... ce juge Frankfurter était révisionniste. Il dit bravo. Mais les Juifs étaient révisionnistes. À la porte des chambres à gaz, ils ne voulaient pas savoir. Bon, qui veut savoir ça? Ça veut dire quoi?
Est-ce que vous avez reparlé de votre film avec Jan Karski, Claude Lanzmann. Il avait publié dans Cultura en novembre 1985 un grand article sur Shoah que la revue Esprit avait à l'époque publié et qu'elle republie d'ailleurs aujourd'hui, où il disait tout le bien qu'il disait de Shoah, en disant aussi ce qui avait été son projet, jamais réalisé, il faudrait faire, et c'était peut-être un reproche implicite qu'il vous faisait, il faudrait tout de même faire un autre film qui montrerait aussi que les Polonais, il y a eu des Polonais héroïques, valeureux, le gouvernement en exil, et que il faudrait du coup avec cet autre film, ou disons qu'il disait cet autre film pourrait redonner confiance à l'humanité, aux jeunes générations. Voilà, c'est ce qu'il dit dans l'article.
Je vous réponds. Quand Shoah est sorti en France en 1985, les Polonais sont devenus complètement hystériques. Enfin, l'honneur national polonais était atteint. Je n'avais montré que des paysans primitifs, etc. Et Karski, lui a fallu beaucoup de courage pour déclarer à ce moment-là que Shoah était le plus grand film jamais réalisé sur l'Holocauste. Alors oui, il regrettait que je n'ai pas montré la deuxième journée. Bon, à savoir qu'il avait essayé d'avertir un tel. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Alors les gens d'esprit, probablement, avec une espèce de malignité classique chez eux, se sont emparés de cela. Mais en tout cas, ce soir, ils vont voir, d'accord ?
Écoutez, ils publient ce qu'ils veulent publier, c'est tout, c'est intéressant. Non, cet article de Karski. Après tout, je me rends compte que là, je m'adresse également au patron des temps modernes, Claude Lanzmann. Donc, pour faire des choses équilibrées, je vais citer aussi que les temps modernes, la dernière livraison, le numéro 657, janvier-mars 2010, publie un long article de vous, et puis publie la retranscription, de mot par mot, de tout le dialogue, tout le récit rapport Karski, du film que l'on voit ce soir sur Arte, qu'on peut lire là, mot à mot, dans ces temps modernes, janvier-mars de 2010. Vous le savez, au matin, il y a le temps de la discussion aussi, je vois des doigts qui se lèvent, et notamment Daniel Salnave. Claude Lanzmann.
Oui, moi je voudrais revenir sur la question. Je voudrais revenir sur la question de la vérité. En ce qui concerne, je distinguerai la vérité des faits et la vérité du vécu. Alors, la vérité des faits, je partage absolument votre point de vue. Le devoir de vérité est un devoir absolument imprescriptible sur la vérité des faits. Mais quand il s'agit de la vérité du vécu, je me pose une question. Elle va être très simple. Est-ce que vous trouvez que c'est obscène et choquant que, par exemple, dans son grand roman Vie et destin, Vassili Grossman ose faire pénétrer ces personnages à l'intérieur de la chambre à gaz?
Claude Lanzmann.
Écoutez, je pense que Vassili Grossman, c'est de la littérature, de la vraie. Bon, et je pense que toute vraie littérature enrichit le réel, le complexifie et l'approfondit. Donc, il a le droit. Mais c'est pas du tout ce qui se passe avec le livre de Haenel.
Je parle pas de ça. Je dis qu'il y a une vérité du vécu que Grossman nous restitue. Vous le trouvez?
Sûrement, oui. Sûrement.
Bah, je vous remercie parce que sûrement. Je crois que c'est important pour Vassili Grossman aussi.
Marc Ravet.
le débat. Bonjour d'abord. Le débat sur ce qui aurait pu être fait, ce qui n'a pas été fait. Vous avez raison de dire à quel point il est anachronique. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'est pas légitime, non seulement que la question se pose, mais que la question se pose de manière, j'allais dire, obsédante. Quand bien même tout ce que vous avez dit, qui est écrit dans le déroulant qui précède le film qu'on va voir ce soir, que vous avez répété dans la première partie de cette émission, la question de Marc Blanchet. Quand bien même tout cela, oui d'accord, rien ne pouvait être fait une fois qu'Hitler avait déclenché sa guerre. Est-ce qu'il n'est pas normal que cela fasse scandale? Est-ce que, en gros, aux jeunes gens, aux moins jeunes d'aujourd'hui, disons, les moins jeunes qui n'ont pas connu la guerre, ça commence à se faire eux-mêmes assez âgés, disent, comment se fait-il que des choses pareilles soient possibles sur cette planète?
Mais, et donc, mon cher camarade
Claude Lanzmann,
je voudrais tout de même vous rappeler quelque chose. Quand je dis qu'il ne faut pas regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui, ça a un sens. Les Juifs, à l'époque, mais c'était complètement latéral, c'était complètement marginal. Non, je ne parle pas de l'Allemagne, mais en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit les Juifs comme une puissance à cause de, parce qu'ils ont un État, à cause d'Israël, etc., etc. Mais c'était secondaire. Et l'idée qu'il fallait gagner la guerre pour les libérer, rescue through victory, comme il disait, c'est pas une idée à rejeter. Bon, tous les malheureux qui sont morts en débarquant à Omaha Beach et ailleurs, et les millions de soviétiques qui sont morts, ils sont morts pourquoi ? Ils sont morts pour libérer l'Europe de la barbarie nazie. Bon, alors, très bien, vous me dites, c'est un scandale, mais... oui, c'est un scandale. Mais...
Parce que vous n'avez pas été sans remarquer qu'il y a quand même un débat aux États-Unis qui est un débat récurrent, un débat d'historien, un débat d'historiographie, autour, vous en avez d'ailleurs cité un certain nombre, autour de l'administration, dont une partie en effet était en sismique de Roosevelt.
Mais c'est mais écoutez,
Claude Lanzmann.
On connaît tout ça par cœur quand même.
Oui, j'imagine.
Les historiens, je l'ai dit, enfin, ils connaissent mieux que moi, enfin. Font ce qu'on appelle des papers, ils ont besoin de faire carrière, d'accord ? Alors ils inventent, pendant tout un temps, il y a eu aux États-Unis des livres que j'ai lus, et j'étais pas loin de leur donner raison, qui s'appelle « L'abandonnement of the Jews »,
David Wayman,
« Politics of Rescue », etc. Quand on les lit, oui, ça paraît clair, tout était possible, mais c'est pas vrai. La pesanteur du réel, l'illisibilité du réel, ça existe. Aujourd'hui aussi, elle existe.
Et elle ne s'explique pas. Hein, elle ne s'explique pas. Enfin, Karski dit qu'il dit qu'il ne se l'explique pas. Olivier Duhamel.
Olivier. Il dit, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont sûrement fait des choses.
Oui,
ils ont essayé de
absolument.
Les faire. Et c'est vrai. Ils ont essayé. Olivier. Il y a le possible et ce qu'on ne peut pas faire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de distinguer entre l'agir et le dire, entre vous reprenez, vous expliquez très bien, d'autres aussi, qu'il n'était pas possible, qu'il était absurde, qu'il était contre-productif de beaucoup de points de vue, par exemple de bombarder Auschwitz, ou etc. Bon, ça c'est une chose. Mais il y en a une autre qui est que et vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais je pense que vous conviendrez que dans la parole publique des années 42, 43, 44, la dénonciation de la Shoah...
Elle a existé.
Bien entendu, je ne dis pas. Elle a existé, elle est restée assez contenue.
Il y a eu des déclarations.
Elle n'a pas été à la hauteur de ce que c'était, si vous voulez.
Il y a eu des déclarations.
Non, il y a eu des déclarations.
De Roosevelt,
bien sûr,
de Churchill,
bien
des
sûr.
Déclarations communes même.
Mais tout à fait. Non, mais je ne nie absolument pas ça. Mais c'est resté relativement secondaire. Et ça, ça nous interpelle aussi. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'efficacité de la guerre.
Je suis d'accord avec vous, mais là, d'abord, c'était très difficile de se figurer la réalité de l'extermination des Juifs. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, il y avait ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Il ne pouvait pas faire plus. Moi, je ne crois pas.
Mais en dehors de... Bon, je ne parlais pas de faire, mais d'agir. Mais dans le fond, si on va plus loin sur cette histoire de l'anachronisme, évidemment que tout le monde est d'accord pour dire que l'anachronisme est intellectuellement absurde, que l'historien doit se méfier de l'anachronisme, etc. etc., etc. Bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas, en allant un peu plus loin, se dire que l'anachronisme peut avoir du bon pour le citoyen ? Je veux dire, non pas en ce qu'il juge le passé au regard du présent, mais en ce que cela pourrait être fort utile par rapport à l'avenir. Oh, voilà. C'est-à-dire que pour se dire attention, il est possible...
Une sorte d'alerte
voilà,
mémorielle.
Attention, c'est par exemple, prenons un exemple précis, c'est complètement aberrant, et moi j'ai toujours été très contre ça, les comparaisons abusives faites entre les traitements scandaleux imposés aujourd'hui en France dans certains cas à des sans-papiers, et ce qui s'est passé sous Vichy à l'égard des Juifs. Totalement absurde. Mais avant... toute cette discussion, je pensais que c'était 100% absurde. Maintenant, je passe de 100 à 90. Parce que, quand on me dit, mais attention, on ne savait pas, on ne pouvait pas se figurer, c'était tellement inouï, c'était tellement innommable que... Maintenant, je me dis, parfois, il faut penser le pire avec l'anachronisme pour être sûr qu'on protège alors, quelque chose.
Claude Lanzmann. D'accord, il faut penser le pire. Alors, est-ce que nous avons pensé le pire au moment des massacres du Rwanda?
Non, justement.
Est-ce que nous pensons le pire quand il s'agit du Darfour, etc.? On est là, on vit, les consciences sont séparées, comme des monades, sans porte ni feu-fenêtre. Il faut être leibnizien, il ne faut pas... C'est vrai. Non, mais tout ça, c'est l'idéologie de l'humanitaire qui empoisonne...
De la génération de notre génération, hein, voilà, les cadras.
Bah oui.
Mais non, mais c'est une question. C'est une
plus
question.
Plus jamais ça.
C'est
plus
une question qui est bouleversante,
L'humanitaire. Qui interroge, excusez-moi, l'humanitaire arrive toujours trop tard. C'est l'idéologie bad people.
Donc le procès que l'on ferait aujourd'hui aux alliés en disant ils n'ont rien fait, est un procès qui pour vous n'a aucune justification et puis qui quoi qu'il en soit arrive trop tard aussi de toute façon.
Le procès. Ouais, ouais. Le procès est largement
tard. Je pense que l'humanitaire, ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'il vaut mieux quand même se dire plus jamais ça que de se dire je m'en fous complètement parce que de toute façon, on ne pouvait pas savoir et c'était trop compliqué.
Non, mais d'accord.
Claude Lanzmann, tout de même aussi une question qu'on a envie de vous poser. Quelle est quand même pour vous la légitimité, malgré tout, de parfois, dans la création artistique de ceux qui font des farces, des films burlesques, ça va de Chaplin avec le dictateur, en passant par Roberto Benigni, La vie est belle, et Inglourious Bastard, Uchronie, organisée par Quentin Tarantino, dont je crois que vous ne détestez pas le projet, ni le film lui-même, le film de Tarantino.
Je ne déteste pas le bonhomme, surtout. J'aime bien.
Ça, d'accord. Bon, mais et ensuite.
J'aime bien sa gueule. J'aime bien son cou. Oui. Il a un gros cou puissant.
Ah, mais il a plus de coups que vous, mais ça, c'est un autre sujet. Il faut relire le livre de Patagonie. Non, mais vous n'êtes pas. C'est pour comprendre aussi votre position par rapport à ces questions.
Mais Inglourious Bastard, c'est un. Il ne faut pas comparer Inglourious Bastard à la réalité.
Pourtant, votre ami, quand même, Bernard-Henri Lévy, dans La Règle du jeu, dit c'est horrible, quoi. Larry trouve son compte, pas la mémoire, ni encore moins. Les Bad Boys s'amusent avec Semblable au Dieu de Berkeley avec l'histoire. Je raccourcis, je le cite vite, mais enfin, c'est grosso modo ce qu'il dit. Il est assez ulcéré, lui, par cette façon que la génération des gens de la mienne, par exemple, joue avec ces questions-là. Et vous, pas en l'occurrence.
C'est pas. Non, je ne suis pas ulcéré par Tarantino. D'abord, je trouve que c'est un grand cinéaste.
Alain Gérard ?
Il y a une différence entre le libre traitement de l'histoire par un écrivain qui laisse aller son imagination ou le traitement de cas spécifiques et en particulier dans la biographie où on fait dire à des morts des choses qu'ils n'ont pas dites.
Voilà.
Alors là, c'est tout à fait autre chose, n'est-ce pas ?
Ça, c'est très mal.
Et parce qu'ils ne peuvent pas revenir pour répondre.
Ça, c'est très mal. Quand on pourra en revenir, je sais que vous ne voulez pas prononcer le mot, vous avez dû sûrement l'inviter déjà.
Quoi ?
Monsieur Hennel.
Justement pas pour l'instant, nous ne souhaitions pas. Nous ici, encore une fois, je l'ai dit, nous ériger à France Culture, surtout pas dans cette radio, comme un tribunal d'écrivains. Il est venu à France Culture, bien sûr, il n'est pas venu au matin, mais qui sait, pourquoi pas, il viendra au matin.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs, en faisant ma remarque, je n'y pensais même pas. Bon.
Non, mais qu'est-ce que vous vouliez nous dire là, par là
Non, mais c'est le contraire de ce que disait Daniel Salnab tout à l'heure. Enfin, il se glisse dans la peau de Karski pour en faire un pantin martyr de la cause juive, alors que Karski, on le voit ce soir dans mon film, dit « Vous devez comprendre que les Juifs n'étaient pas au centre de mes préoccupations.
Oui. » Et qu'il avait, c'est vrai, chevillé au cœur la question de la Pologne.
Le centre de mes préoccupations, c'était la Pologne. Mmh. Bon, c'était la Pologne, ma patrie, les communistes, etc. Est-ce que la Pologne revivra. Il le dit de la façon la plus nette.
Cela dit, reconnaissez, Claude Lanzmann, puisque nous arrivons au terme de l'émission, qu'après tout, ces discussions, ces controverses, ces débats, votre colère à vous, les
réponses... Je ne suis pas en colère.
Non, mais qu'elle permet, elle permet de faire... Non, mais je trouve que vous êtes parfaitement de bonne humeur ce matin, c'est formidable. Non, elle permet quand même, et elle montre quelque chose, que Shoah est un film qui vit... Et qui n'en finit pas d'interpeller,
non,
d'interroger. Bien sûr. Et que, après tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, tombe à pic, quoi qu'il en soit, indépendamment des questions de polémique, tombe à pic ce Karski qui raconte évidemment Roosevelt, évidemment. Et que le film continue de nous interroger. C'est ce que vous vouliez faire en faisant cette œuvre-là.
Karski, quand il a quitté Roosevelt, il est parti à reculons. Il faisait des courbettes japonaises, tellement il était ébloui d'avoir vu le maître du monde.
Mais vous êtes d'accord qu'il vaut mieux poser des questions qui vous énervent que de plus poser de questions?
Attendez, ça c'est pas comme ça. Ouais. Je suis d'accord pour qu'on se pose toutes les questions qu'on veut, mais pourquoi vous dites des questions qui m'énervent? J'ai l'air énervé?
Bon.
Je ne suis pas énervé du tout.
Merci Claude Lanzmann. J'ai beaucoup de choses à annoncer. Merci de nous avoir évidemment rejoints ce matin. Je rappelle Les Temps modernes, le rapport Karski, ligne à ligne, la retranscription du documentaire que vous signez et qui est diffusé ce soir à 22h sur Arte. Il faut aussi se reporter à la nouvelle édition, nouvelle traduction du texte de Yann Karski lui-même, Mon témoignage devant le monde, histoire d'un état clandestin, chez Robert Laffont. Il ne faut pas oublier que le livre de Yannick Enel est édité dans la collection de Philippe Solers, Infini chez Gallimard.
Bah non,
voilà, je charrie. Et puis je rappelle aussi que Shoah, on peut le voir samedi et dimanche, première époque samedi, deuxième époque dimanche.
Non, on
ira sur le site de franceculture.com. Je vais me mélanger les pinceaux. En tout cas, on peut voir à Paris, au Panthéon, samedi et dimanche, Shoah, Claude Lanzmann. Vous êtes d'accord?
On le voit samedi dans son intégralité, d'un seul jet, et dimanche d'un seul jet.
Voilà, très
deux
bien.
Deux jours de suite d'un seul jet.
À 13h30 et à 19h, samedi et dimanche. Et puis, j'oublie de signaler que le livre de Patagonie, vos mémoires, qui raconte votre sainte horreur de la guillotine, est publié aussi chez Gallimard. Je vous déconseille d'aller voir l'exposition de Robert Badinter, qui est notre invité demain, sur Crime et Châtiment, avec Jean-Claire, parce qu'on entre par, si j'ose dire, une guillotine. Et vous racontez, vous, c'est le premier mot du livre de Patagonie, que vous avez une phobie absolue de l'évocation même de la guillotine, parce que vous dites « je n'ai pas de coup » et je n'ose imaginer ce que
ça... C'est pas pour ça que j'ai une phobie de la guillotine. La vraie question, c'est comment la mort peut-elle être infligée comme peine, d'accord? Je suis contre la peine de mort.